Vous écoutez, on lit pour vous.
Sommes-nous de bons citoyens? Un texte d'Émilie Côté, paru le 12 janvier 2025 dans la presse. Vivre ensemble. Laisser son siège à une femme enceinte dans le métro. Rapporter son panier à l'endroit désigné dans un stationnement d'épicerie. Payer ses impôts. Ramasser le contenu d'un sac de poubelle éventré par un écureuil devant sa maison. Faire tous ces gestes, c'est pour beaucoup de gens ce qui permet de déterminer si une personne est un bon citoyen. Mais ce n'est peut-être pas si simple. C'est certain que la citoyenneté implique l'adhésion à certaines règles de vivre ensemble, nous dit Stéphanie Gaudet, professeure titulaire à l'École d'études sociologiques et anthropologiques de l'Université d'Ottawa. Il y a différentes conceptions de la citoyenneté. On peut l'avoir d'un point de vue statutaire. Elle peut être politique, sociale. Mais depuis les années 1990, on se penche sur la citoyenneté vécue, expose Stéphanie Gaudet. Peu importe son statut, on a des pratiques de citoyenneté dans la vie de tous les jours, poursuit la directrice du Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités. De la religion à la citoyenneté. On peut s'entendre sur le fait qu'un bon citoyen respecte ses concitoyens et contribue positivement à son entourage. Il n'en demeure pas moins que l'éducation à la citoyenneté peut être floue et théorique, convient Stéphanie Gaudet. Or, elle n'est pas moins importante, plaide celle qui précise ne pas avoir participé au programme de culture et citoyenneté québécoise mis en place par le gouvernement. Pendant longtemps, au Québec, la notion d'être une bonne personne ou non était vue à travers le prisme de la relation catholique et des péchés. La question de la citoyenneté est venue avec la sécularisation, rappelle Stéphanie Gaudet. Une autorité extérieure ne dicte plus ce qui est bienséant ou non. Stéphanie Gaudet rappelle, par ailleurs, à quel point la pandémie a exacerbé la notion du bon citoyen obéissant. Avec le recul, difficile de croire que les gens ont même respecté un couvre-feu, souligne-t-elle. Quand on y pense, c'est absurde comment nous avons accepté des choses. Je comprends qu'il y avait une urgence, mais il n'y avait pas de place à la discussion. Interroger le pouvoir est le propre de la citoyenneté démocratique, fait-elle valoir. Les jeunes, tout particulièrement, doivent apprendre à développer leur sens critique. Il faut éduquer les gens pour faire face à des conflits de valeurs opposées. Geneviève Cloutier, professeure d'aménagement du territoire et de développement régional à l'Université Laval, abonde dans le sens de sa collègue de l'Université d'Ottawa. « Pour moi, dit-elle, une bonne citoyenneté, c'est d'être capable de rallier tout en brassant la cage. » Il faut se voir en contributeur et non comme contestataire. La citoyenneté active. Geneviève Cloutier, directrice du Centre de recherche en aménagement et développement, CRAD, s'intéresse grandement à ce qu'elle appelle la citoyenneté active et à l'engagement citoyen dans l'aménagement des milieux. Il y a 10 ans à peine, les projets citoyens de verdissement ou d'ateliers de vélo collectif, par exemple, étaient émergents, alors qu'aujourd'hui, ils sont légions. Beaucoup de villes ont mis en place des budgets participatifs qui permettent aux ressources citoyennes de s'émanciper. Force est de constater qu'il y a eu un appétit de faire les choses autrement, note-t-elle. Les projets portés par les citoyens révèle les aspirations de leur collectivité, souligne Geneviève Cloutier. C'est un passage à l'acte qui fait qu'on interagit avec les autres et qui nous donne envie de contribuer. Les initiatives citoyennes sont à petite ou à grande échelle. Geneviève Cloutier cite en exemple Solon, qui était à l'origine un projet de ruelle entre voisins et qui est devenu un organisme phare de Montréal dont les 30 employés gèrent d'importantes subventions avec un modèle d'autogestion. Geneviève Cloutier mentionne aussi le projet Croque ton quartier, créé par deux maires à Beauport, en banlieue de Québec. Aujourd'hui, 4000 personnes gravitent autour d'un espace collectif nourricier aménagé sur un terrain en friche. Je considère que l'exercice de la citoyenneté active est un antidote au populisme, au cynisme. C'est une façon de se réconforter. D'être dans l'action et en relation avec les autres atténue les frustrations, fait valoir la membre de l'Ordre des urbanistes du Québec. Vous écoutez « Sommes-nous de bons citoyens », un texte d'Émilie Côté paru le 12 janvier 2025 dans la presse. Inégaux à travers la citoyenneté. En arrêtant massivement d'aller à la messe, les gens ont aussi cessé de se réunir tous les dimanches sur le parvis de l'église. Il y a un besoin de recomposer nos lieux de rencontre et d'échange, note Geneviève Cloutier, qui fait partie du groupe de recherche Accès à la cité. C'est pourquoi les citoyens s'investissent dans leurs rues, dans les parcs, les bibliothèques et dans ce qu'on appelle les tiers-lieux. Or, nous sommes inégaux face aux façons de vivre notre citoyenneté, fait valoir Stéphanie Gaudet. On peut tout simplement penser aux propriétaires en opposition aux locataires, par exemple. Les gens qui possèdent leur maison ont l'assurance d'y vivre longtemps sans risque d'être rénovincés l'année suivante. C'est normal qu'ils soient peut-être plus enclins à verdir le carré d'arbres devant leur porte d'entrée. Quelqu'un qui est malade, une mère de famille monoparentale ou une personne qui a trois emplois pour joindre les deux bouts n'ira peut-être pas à une consultation citoyenne un lundi soir. Des gens ont plus de ressources pour faire entendre leur voix, rappelle Stéphanie Gaudet. L'engagement varie selon les temps de la vie, ajoute Geneviève Cloutier, qui a coécrit le livre « L'engagement pousse là où on le sème ». C'est de trouver une communauté et des interlocuteurs qui nous stimulent, poursuit la professeure en rappelant l'existence de « Mères au front », mouvement créé par des femmes qui ont voulu transformer le sentiment d'impuissance face au changement climatique en action militante. L'engagement donne un sens à nos vies qui ont un rythme déroutant. C'est de se réapproprier son quotidien, son environnement, l'échelle des jours qui passent. C'est de sentir qu'on fait une différence. Stéphanie Gaudet rappelle que si la citoyenneté implique des droits et des devoirs, elle est fortement liée à l'appartenance d'un individu à sa communauté. Si ton sentiment d'appartenance envers ton quartier est grand, tu risques de sortir tes poubelles au bon moment. De l'esprit civique. Nous étions curieux de demander à la Ville de Montréal si plus de livres sont remis en retard depuis que le réseau des bibliothèques a aboli en 2021 les frais de retard. Le but, fort louable, était d'éliminer les barrières économiques, mais les chiffres parlent. En 2018, 12% des documents retournés étaient en retard, contre 25% en 2024. Est-ce de la négligence? Un manque de civisme? En 2022, de nombreux lecteurs ont réagi au texte publié dans nos pages de l'auteur Stéphane Dompierre sur la théorie virale, qui n'a rien de scientifique, du panier d'épicerie. En somme, on peut juger du degré de civisme d'une personne selon qu'elle rapporte ou non son panier d'épicerie au bon endroit. Stéphane Dompierre écrivait « Faire ce geste sans avoir l'impression d'être un héros, mais simplement pour ne pas nuire à son prochain ». Il faut bien entendu en prendre et en laisser, mais Stéphanie Gaudet nous renvoie à un texte paru dans Scientific American. La shopping cart theory pose des questions intéressantes quant aux tensions entre nos intérêts personnels et les normes sociales qui sont essentielles au vivre ensemble. Des gens peuvent avoir de bonnes raisons, motrices ou autres, de ne pas pouvoir apporter leur panier. Or, on peut se demander si les gens en général craignent moins qu'avant le regard des autres quant au non-respect de certaines normes, surtout quand c'est sans conséquence. Il faut aussi distinguer le civisme de la civilité, ajoute la professeure qui a un doctorat en études urbaines. Mais surtout, il faut éviter le piège de la moralisation. Les petits et grands gestes de bons citoyens. Des citoyens exemplaires gagnent des prix pour leur engagement et leur bénévolat. D'autres s'engagent spontanément dans leur quartier, mais une chose les unit. La satisfaction de voir leurs efforts porter leurs fruits. Discussion sur la citoyenneté avec des voisins surnommés les enjoliveurs de rue et l'inspirante bénévole Chantal Bernatché. Aujourd'hui, on les connaît sous le nom des enjoliveurs de rue. Ils sont responsables des bacs potagers de la Plaza Saint-Hubert, mais à l'origine, ils n'étaient que des voisins de la rue Saint-André qui désiraient simplement verdir les espaces devant leur domicile où traînaient beaucoup de déchets. Lors d'un souper de Noël en 2018, ils ont lancé l'idée de faire une corvée de nettoyage au printemps. C'était un projet pour nous qui ne demandait pas l'aide des autres, raconte Laurier Baudouin. Mais pour éviter que les déchets au sol ne reviennent, ils ont décidé d'embellir et de verdir des carrés d'arbres. Un premier, un deuxième, puis un troisième. Ensuite, ils ont obtenu un peu d'argent grâce au budget participatif de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie. Depuis, ils multiplient les projets. Aménagement de bacs muraux le long d'un stationnement étagé, où pousse notamment du houblon récupéré par la microbrasserie Melon. Atelier de cuisine, agriculture urbaine. Ils ont même gagné l'appui de la Société de développement commercial de la Plaza, qui finance l'installation d'une sculpture par année à la suite d'un appel à projet. On en retrouve quatre pour l'instant, dont celle-ci de l'artiste Glenn Lemesurier. Aujourd'hui, les enjoliveurs de rue orchestrent rien de moins que des travaux de déminéralisation, mais ils continuent d'avoir une approche DIY pour « do it yourself », soit le « faire soi-même ». Les semis se préparent toujours chez Laurier. Vous écoutez « Sommes-nous de bons citoyens ?» un texte d'Émilie Côté paru le 12 janvier 2025 dans La Presse. Élise Lavoie s'est jointe aux enjoliveurs en passant par hasard devant l'un de ses potagers. J'arrivais à vélo avec un sac de terre et Laurier m'a dit bonjour, raconte l'amoureuse du jardinage. Aujourd'hui, elle est investie par la mission de verdir les carrés d'arbres orphelins et elle fait même des récoltes de semences dans le quartier. « J'aime les vivaces indigènes », souligne-t-elle. Pour sa part, Ginette Verdonne dit à la blague qu'elle était une citoyenne sauvage avant de se joindre aux enjoliveurs. L'étiquette de « bonne citoyenne » l'agace quelque peu et elle ne considère pas vraiment son implication comme du bénévolat, bien que cela vienne de lui valoir une reconnaissance de son arrondissement. « Je m'occupe de ma cour arrière », dit-elle. « Si quelque chose nous dérange, il faut s'en occuper. » Celle qui demeure sur la Plaza depuis près de 30 ans se réjouit d'avoir enfin pu faire la rencontre de ses voisins. « Je n'aime pas la réunionnite et j'aime quand les choses sont tangibles », explique-t-elle. « Avec nos projets, on voit le fruit de nos efforts et il y a des contacts qui se tissent. » Depuis qu'elle est enjoliveuse de rue, Élise Lavoie n'a plus la même vision de la ville. « Pour moi, c'est un changement de paradigme. Avant, ma devise était que la ville est anonyme. » Beau hasard, les enjoliveurs de rue sont soutenus dans leur projet par Solon, organisme phare de Montréal, né d'un projet aussi entre voisins, de Ruelle Verte. Autre hasard, moins beau celui-là. Quelques jours après notre rencontre avec les enjoliveurs, la presse rapportait que des déneigeurs avaient endommagé certains carrés d'arbres verdis par d'autres rosemontois investis. Laurier Baudouin a qualifié de désolant le paradoxe de voir des employés de l'arrondissement détruire des efforts d'embellissement encouragés par ce même arrondissement. Des prix et des bourses. Ingénieur chez Hydro-Québec et entrepreneur, Chantal Bernatché a remporté des dizaines de prix, notamment pour son implication au Burkina Faso avec le Centre d'études et de coopération internationale, CECI, mais aussi pour ses projets d'entrepreneuriat basés sur l'économie circulaire. Elle et son mari, Razmané F. Ouedraogo, avec qui elle a 5 enfants, ont fondé Isoprotec, qui produit des sacs thermiques avec d'anciennes pellicules isothermes provenant de conteneurs maritimes ou encore avec le tissu de vieilles montgolfières. Le couple est aussi derrière Iriblière, qui transforme les vieilles tubulures d'érablière en système d'irrigation au goutte à goutte. Madame Bernatché a une énergie contagieuse et on ne peut qu'admirer son désir d'aider les autres. La pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre, lance celle qui a grandi en Gaspésie avec des parents dévoués dans le milieu communautaire. « J'ai vu l'effet d'une bonne action sur l'estime de soi, dit-elle. On reçoit plus qu'on donne. » Chantal Bernatché raconte avoir créé son premier emploi en montant un camp de jour. Dans le cadre de ses études en génie, elle a fait le premier de nombreux stages au Burkina Faso. Elle y a rencontré son mari, et c'est là qu'est né son grand intérêt pour l'économie circulaire et l'entrepreneuriat au féminin. De l'Afrique au Québec, elle cumule à ce jour plus de 30 000 heures de bénévolat en développement durable, ce qui lui a valu des prix hommage bénévolat du gouvernement du Québec et de l'Ordre des ingénieurs, pour ne citer que ceux-ci. Pour moi, le bénévolat est un mode de vie, dit Chantal Bernatché. Sa définition d'un bon citoyen? C'est d'être heureux dans ce que nous sommes pour donner autour de nous. C'est du partage et de la résilience aussi. Le matin de notre entrevue, la presse rapportait que le complexe des jardins tentait de chasser des itinérants de ses escaliers de secours avec la chanson « Baby Shark » jouée à répétition. Imaginez ne pas avoir de toit et en plus être victime du syndrome « pas dans ma cour », réagit Chantal Bernatché. L'autre jour, j'ai juste payé un café à un monsieur qui avait froid. J'ai fait sa journée et il a fait la mienne. De petits comme de grands gestes peuvent faire de nous de bons citoyens, souligne celle qui remercie ses voisins de garder ses enfants quand elle est trop occupée. C'était « Sommes-nous de bons citoyens ?» un texte d'Émilie Côté paru le 12 janvier 2025 dans La Presse.
Marée noire sur près de 50 kilomètres après le naufrage de pétroliers en Russie. Un texte de l'Agence France-Presse paru le 18 décembre 2024 dans Le Devoir. Les autorités russes ont annoncé le mercredi 17 décembre 2024 qu'elles faisaient face à une marée noire s'étendant sur 49 kilomètres de plage, notamment dans des stations balnéaires de la région de Krasnodar, dans le sud-ouest du pays, après le naufrage de 2 pétroliers dans le détroit de Kertch, près de la Crimée annexée. 49 kilomètres de littoral sont en train d'être nettoyés dans les districts de Temriouk et d'Anapa. Station balnéaire prisée de la région de Krasnodar, a indiqué le ministère russe des situations d'urgence dans un communiqué. Quelques 2700 secouristes et bénévoles ont été dépêchés sur les lieux, selon la même source. Environ 80 tonnes de pétrole ont été récupérées depuis le début des travaux, précise le communiqué. La ville d'Anapa, qui compte quelque 90 000 habitants, a été placée mardi par les autorités en régime de situation d'urgence en raison du déversement de mazout sur le littoral. 4 autres petites localités de la région ont été également placés en situation d'urgence, selon les autorités russes. Dimanche, 2 pétroliers russes, le Volgoneft 212 et le Volgoneft 239, se sont échoués au cours d'une tempête dans le détroit de Kertch, qui sépare la Russie de la péninsule ukrainienne de la Crimée, qu'elle a annexée en 2014. Le premier a coulé tandis que le deuxième a été très endommagé. Une personne est morte et 26 membres d'équipage ont été évacués, selon le gouvernement. Le gouvernement russe avait reconnu que l'incident avait entraîné le déversement de mazout, faisant craindre la formation d'une nappe poussée par les vents vers les côtes. La chaîne Telegram Baza a publié des vidéos montrant une plage recouverte de mazout, des oiseaux maculés et noircis cloués au sol. Une trentaine d'oiseaux affectés par le désastre ont été sauvés et nettoyés du mazout par des bénévoles à Vityazevo, près d'Anapa, a rapporté mercredi l'agence de presse publique RIA Novosti. Le ministère ukrainien de la protection environnementale et des ressources naturelles avait de son côté dénoncé lundi une menace de désastre environnemental à grande échelle en mer Noire. C'était Marée Noire sur près de 50 kilomètres après le naufrage de pétroliers en Russie. Un texte de l'agence France-Presse paru le 18 décembre 2024 dans Le Devoir.
Quelques moments marquants pour nos communautés. Un texte de l'équipe de rédaction, paru le 29 mars 2024 dans le magazine Fugue. En consultant les numéros de Fugue du passé, il n'est pas seulement étonnant de constater le chemin parcouru sur le plan légal, mais de se rendre compte comment nos habitudes de vie, la culture gay et nos intérêts comme communauté ont aussi évolué. En 40 ans, tout est allé très vite, à l'image d'une société à la recherche de son identité et qui, sous l'effet conjugué de la mondialisation, de l'immigration et de l'arrivée d'Internet, a radicalement changé depuis 1984. Dans cette évolution, Fugue a apporté sa petite pierre en rendant compte des actions visant au mieux-être et à l'épanouissement de nos communautés. Dans les pages qui suivent, nous vous invitons à un parcours subjectif dans le temps d'hier à aujourd'hui. Notez bien qu'il ne s'agit là que de quelques dates et de quelques noms parmi les centaines qui seront mis de l'avant dans l'exposition 40 ans de fugue et d'histoire des communautés LGBTQ+ au Québec, qui se tiendra durant le Festival Fierté Montréal. La nuit du 1er au 2 juin 1984, descente au Bods. Cette nuit-là, quelques 75 policiers participent à la descente au bar chez Bods, un bar de la rue Stanley, au cours de laquelle 188 personnes sont arrêtées et accusées de grossière indécence et d'avoir visité une maison de débauche. À la suite de la descente, l'Association des droits des gays du Québec, ADGQ, organise une manifestation en réponse aux arrestations. Entre 500 et 600 personnes sont réunies au coin de la rue Stanley et Sainte-Catherine à Montréal afin de dénoncer les arrestations. Été 1984. La création de l'école, l'école Guilford. Des groupes lesbiens louent une ancienne école primaire dans le quartier du plateau Mont-Royal pour fonder l'école Guilford. Cet espace, utilisé comme espace communautaire pour créer une communauté lesbienne, occupe une place centrale pour la communauté lesbienne montréalaise jusqu'à la fermeture de ses portes en 1993. 9 novembre 1986, élection de Raymond Blain. Homme politique. Raymond Blain est la première personne ayant révélé publiquement son homosexualité à avoir gagné au Canada les suffrages des électeurs. Alors candidat ouvertement gay aux élections municipales au poste de conseiller municipal pour le district Saint-Jacques, il déclarait à Fugue « Je veux faire la politique d'une façon honnête. Il me semble important que la population sache qui je suis. En fait, c'est pour moi une condition pour me présenter à ces élections. » Il a été élu à deux reprises conseiller municipal du district Saint-Jacques, où est situé le village, soit en 1986 et en 1990. Il a représenté le quartier de Saint-Jacques au conseil municipal de Montréal jusqu'à son décès en mai 1992. Il est mort de complications reliées au sida à l'âge de 41 ans. Parmi ses réalisations, il faut mentionner l'implantation de la ligne Infodrogue, l'adoption d'un programme de lutte contre le sida et la création de maisons d'hébergement pour les personnes vivant avec le VIH. Il a aussi collaboré à la création du Centre communautaire LGBT de Montréal. Miel Québec débute ses activités à Québec dès 1986. C'est en 1986 que quelques braves de la ville de Québec s'assoient autour d'une table pour exprimer leurs inquiétudes face à la réalité des personnes directement touchées par le VIH-SIDA. Ensemble, ils créent le CIEL, le premier comité pour la lutte contre le VIH-SIDA dans la ville de Québec. À ce moment, la population ignore tout de cette infection. Les préjugés, le rejet, la solitude, l'impuissance et la mort détruisent la vie des personnes vivant avec le VIH-SIDA. Quelques mois plus tard, le CIEL devient le Miel Québec, soit le mouvement d'information et d'entraide dans la lutte contre le VIH-SIDA à Québec, qui est toujours le principal organisme VIH de la grande région de Québec. Automne 1987, le sida devient la première cause de mortalité chez les hommes à Montréal. Présent depuis le début des années 80 dans la métropole, le sida devient la première cause de mortalité chez les hommes adultes au centre-ville de Montréal en 1987. 395 cas de sida ont été enregistrés dans les deux seules années de 1986 et 1987. En fait, il y avait des gens malades depuis déjà quelques années, surtout au centre-ville, mais jusqu'alors on n'était pas conscient de l'importance du phénomène et de l'amplitude que cela allait prendre. On savait que c'était causé par un virus, mais on ne savait pas grand-chose. En juin 1987, Robert Laliberté débute sa longue relation avec Fugue. C'est à partir de juin 1987 que Robert Laliberté mettra son talent au service de Fugue, pour lequel il signera plus de 125 couvertures, soit plus du quart de toutes les couvertures. Événement rare dans l'histoire de l'édition au Québec, la longue collaboration entre Fugue et Robert Laliberté aura eu l'avantage notable de créer une image forte et cohérente du magazine tout en donnant aux photographes une notoriété très grande au sein de la communauté gay québécoise. 1988, premier festival Images et Nations. C'est à partir de novembre 1988 que Diffusion gay et lesbienne du Québec et les bénévoles qui s'y sont impliqués organisent le festival de cinéma et de vidéo Images et Nations gay et lesbienne. En plus de 35 ans, ce festival, dont le nom est dorénavant Images et Nations, Festival de films queer de Montréal, dirigé depuis le milieu des années 1990 par Charlie Boudreau, épaulé par Kat Setzer, n'a jamais cessé d'offrir un témoignage intense et riche, fait d'expériences vécues de l'intérieur. Il a permis à plusieurs milliers d'œuvres cinématographiques et vidéos de partout dans le monde d'être présentées à Montréal. 19 mars 1989. Meurtre homophobe de Joe Rose. L'activiste homosexuel de 23 ans, Joe Rose, est tué dans un bus alors qu'il rentre chez lui accompagné d'un ami. Un groupe de jeunes se met à crier des insultes homophobes au duo et se met à les frapper pour finalement tuer d'un coup de couteau au dos Joe Rose à l'intérieur même du bus. Le meurtre fait la manchette et ébranle la communauté gay et lesbienne. Les quatre adolescents, âgés entre 13 et 19 ans, sont arrêtés et accusés d'homicide au deuxième degré. La famille de Joe Rose gagne une poursuite contre le service de transport de Montréal puisque le conducteur n'a pas enclenché le signal d'urgence de l'autobus. Cet homicide s'inscrit dans une vague d'attaques envers la communauté LGBTQ+ à Montréal, qui mènera à la création de tables de concertation des lesbiennes et gays sur la violence du Grand Montréal. Vous écoutez « Quelques moments marquants pour nos communautés », un texte de l'équipe de rédaction paru le 29 mars 2024 dans le magazine Fugue. Juillet 1990, Sex Garage. La police de Montréal, accusée depuis longtemps d'entretenir une culture homophobe, fait une descente dans la nuit du 14 et du 15 juillet lors du Sex Garage, un party privé qui se tenait ponctuellement dans un loft situé rue de la Gauchetière. Durant cette intervention, qui se conclut par une évacuation violente des lieux, doublée d'arrestations, une vingtaine de membres du SPVM qui avaient retiré leur matricule d'identification ont proféré des grossièretés visant l'orientation sexuelle des participants et participantes. Des participants qui tentaient de fuir les lieux ont été frappés par des matraques ou poursuivis par des voitures de police. Quelques heures plus tard, une manifestation de plus de 250 personnes bloque pendant quelques heures l'intersection Sainte-Catherine et Amherst, rebaptisée depuis Atatecan. Le lendemain, le 16 juillet, un kiss-in est organisé devant le poste de police 25, responsable de la descente au Sex Garage. La manifestation se termine par une autre arrestation musclée, cette fois de 48 personnes. Plusieurs des policiers qui avaient pris soin d'enlever leur matricule d'identification et d'enfiler des gants de latex frappent les manifestants devant les caméras des médias. D'autres manifestations sont organisées les jours suivants devant le poste de police 25 et une grande manifestation se tient le 29 juillet 1990 à laquelle plus de 2000 personnes participent. L'année suivante, une manifestation est organisée pour souligner le premier anniversaire de Sex Garage et une autre pour le deuxième anniversaire. C'est de ces commémorations qu'est finalement née Diversité en 1993. Clairement, la descente du Sex Garage a politisé et conscientisé une génération entière de militants LGBTQ et provoque un changement dans le paysage militant québécois par la création du défilé Diversité, de groupes d'action pour les droits civils de la communauté LGBTQ et force un examen de conscience des autorités de la ville et policières. La création de la COCQ-SIDA en 1990. Les organisations gays québécoises d'alors, axées sur le lobbying ou les services de soutien liés à l'orientation sexuelle, n'étaient pas préparés à faire face à l'épidémie. On voit donc la création de nombreux organismes SIDA offrant service ou soutien aux personnes atteintes, alors que d'autres prennent les devants quant à la prévention ciblée. Devant la multiplication des organismes, une coalition se forme en 1990. Cette coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le SIDA, mieux connue comme la COCQ-SIDA, qui compte maintenant une trentaine de membres. Naissance du Black and Blue en octobre 1991. Le légendaire party montréalais Black and Blue est né à l'automne 1991. La première édition est d'abord et avant tout un événement privé, entre amis des quatre coins de l'Amérique du Nord. Son fondateur, Robert Vézina, expliquait dans Fugue quelques années plus tard, « Nous pensions que Montréal avait besoin d'un bon bol d'air frais. Et l'événement, par la suite, est ouvert au public et sa popularité grandit à chaque édition. » Sa fréquentation est record en 1999 quand le festival accueille plus de 17 000 personnes au Stade olympique. Et l'année suivante, le terrain du stade est illuminé de 25 000 bougies pour créer un gigantesque ruban d'espoir représentant le ruban du SIDA, comme entrée spectaculaire à l'événement. La dernière édition du Black and Blue a eu lieu en 2022 après avoir souligné ses 30 ans. 1991, création d'Action 00. Dès sa création, Action 00 adopte une approche de promotion de la santé sexuelle et le bien-être des hommes gays, bisexuels et ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. L'idée est de fournir de l'éducation et de la sensibilisation quant à la prévention du VIH et des autres ITSS, en offrant notamment des services d'intervention, en plus d'être présents sur les différents lieux de rencontre, parcs, sauna et Internet, afin de répondre aux questions sur les ITSS et la santé. En 2009, l'organisme change de nom pour Réseau. Si ses missions et son approche restent les mêmes, l'organisme offre des services d'intervention en santé plus diversifiés et intègre dorénavant les hommes trans. Du 12 au 15 novembre 1992, la vie en rose. En novembre 1992, se tient à l'Université du Québec à Montréal et à l'Université Concordia le premier colloque québécois d'études lesbiennes et gays. Ouvert au public, l'événement a réuni plus de 180 conférenciers et conférencières. Plus de 60 ateliers et tables rondes ont traité de sujets variés tels que l'histoire des lesbiennes et des gays, le féminisme et le lesbianisme, les rapports des homosexualités avec l'ethnicité, le droit, la religion, les arts et les médias. Descente de la police de Montréal dans le bar Catacombe en février 1994. Trois mois après les audiences de la Commission des droits de la personne, voir notre autre article sur le militantisme, portant entre autres sur la répression et les préjugés entretenus par la police de Montréal envers lesbiennes et gays, la police de Montréal fait une descente dans le célèbre bar gay Cox Catacombe. Les policiers arrêtent tous les 168 hommes présents pour s'être trouvés dans une maison de débauche. Traités en criminels, beaucoup vont souffrir longtemps de cet épisode traumatisant. Était-ce une tactique d'intimidation de la police? Le bar était alors la propriété d'un criminaliste? Ou la poursuite d'une opération débutée les mois précédents, alors que la police avait visité la discothèque Max et les 2R, un bar de danseurs nus? Quoi qu'il en soit, la police est prise à son propre jeu et doit éventuellement abandonner les accusations contre 92 des 165 personnes arrêtées. En fin de compte, seulement une poignée d'entre eux seront formellement accusés. Cette descente force des négociations sérieuses entre la police et la communauté et pave la voie à la mise sur pied de Dire enfin la violence, DELV, ainsi qu'à une table de concertation où les gays, la ville et les corps policiers ont démontré leur capacité à se parler, à faire avancer les dossiers et à changer l'approche d'intervention des policiers. Le marketing rose à partir de 1994. Le couple homosexuel devient à partir de 1994 une cible spécifique du marketing dans les pays occidentaux. Le comportement public de certains gays a inspiré la publicité. En cela, le marketing a intégré un certain nombre de clichés gays. Ainsi, des opérateurs touristiques se sont spécialisés dans le tourisme gay, des marques de vêtements, de lessives ou de voitures commencent à afficher des couples gays dans leurs campagnes publicitaires. On voit apparaître chez les spécialistes du marketing des expressions telles que « dink »,« double income, no kids »,« double revenu, pas d'enfants » ou encore « pink dollar », pour parler du commerce ciblé sur les gays, lesbiennes, bisexuels et transsexuels. Vous écoutez « Quelques moments marquants pour nos communautés », un texte de l'équipe de rédaction paru le 29 mars 2024 dans le magazine FUG. Suicide chez les jeunes, 1999-2000. Malgré les progrès accomplis par leurs aînés sur le plan des droits et libertés et de la visibilité sociale et médiatique, les jeunes gays demeurent plus vulnérables. Conscients qu'il y a un problème, Gay Écoute lance la première recherche québécoise portant sur le suicide chez les jeunes gays et bisexuels. Après 2 ans de négociations avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, une subvention de 67 000 $ est finalement octroyée en 1999 à Gay Écoute pour la réalisation d'une recherche dirigée par Michel Doré. Ce dernier publie, en 2000, « Mort ou fif », le premier livre en langue française à se pencher sur la fréquence alarmante de leurs tentatives de suicide. En retraçant les origines de leur désarroi, Michel Doré va au-delà des statistiques qui signalent que les jeunes gays sont beaucoup plus à risque de se suicider que leur père hétérosexuel et révèle les déchirants scénarios de vie dans lesquels ils se retrouvent bien malgré eux. Une représentation des communautés LGBTQ+, en évolution, via le recensement canadien. Le recensement canadien de 2001 inclut pour la première fois les unions libres de même sexe dans les questions sur la cohabitation. Près de 68 400 personnes déclarent vivre dans une union libre avec un ou une partenaire de même sexe. L'inclusion des couples homosexuels dans le recensement, qui se fera progressivement, a pour objectif d'offrir progressivement un meilleur portrait statistique et de mieux faire ressortir et comprendre certains besoins de la population. 20 ans plus tard, plus d'un million de Canadiens âgés de 18 ans et plus s'identifient comme une personne LGBTQ+. Un nombre qui devrait encore augmenter dans le futur quand on analyse les données par génération. En effet, la proportion double en importance, des plus âgés aux plus jeunes, et ce, pour chacune des 5 générations ayant répondu au dernier recensement. En 2001, la population du Canada venait de dépasser les 30 millions. Elle atteindra les 40 millions au cours de 2024. Juin 2003, la Fondation Émergence met sur pied la première journée de lutte contre l'homophobie. Créée en 2000, à l'instigation de Laurent McCutcheon, président de Gay Écoute, la Fondation Émergence se donne pour but de lutter contre l'homophobie et la transphobie en créant divers programmes axés sur la sensibilisation aux réalités des communautés issues de la diversité sexuelle et de genre. Elle est à l'origine de la première journée nationale contre l'homophobie qui se tiendra en juin 2003 et 2004. La date du 17 mai sera ensuite choisie comme journée internationale de lutte contre l'homophobie en 2005. En effet, c'est un 17 mai, en 1990, que l'Organisation mondiale de la santé supprime enfin l'homosexualité de son répertoire des maladies mentales. Les Hot Games mondiaux à l'été 2006. Du 26 juillet au 6 août 2006, Montréal vibre au rythme d'un des plus importants événements internationaux pour les LGBTQ+, les premiers Hot Games mondiaux. Fugue publie pour l'occasion sa plus imposante édition de 296 pages, dotée exceptionnellement d'un tirage de 65 000 exemplaires. Une conférence internationale sur les droits humains des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, LGBT, du 26 au 29 juillet, rassemble près de 1 600 participants venus des 4 coins de la planète pour débattre de la situation des LGBT. La déclaration de Montréal, entérinée à l'unanimité par les participants de la Conférence internationale sur les droits humains des LGBT, demeure certainement un des grands moments des premiers Hot Games mondiaux. Les compétitions sportives qui suivent la conférence se déroulent rondement et mettent à l'honneur un peu plus de 11 000 athlètes de tous les âges provenant de 111 pays. Grand moment d'émotion à la cérémonie d'ouverture, alors que les milliers d'athlètes inscrits aux compétitions ont fait leur entrée dans le stade olympique. Costumés et regroupés par pays ou ville, ils ont été chaudement applaudis par le public. Les athlètes représentant les pays où l'homosexualité est condamnée ont été chaudement accueillis par la foule qui s'est spontanément levée debout. Plusieurs athlètes que Fugue a rencontrés durant la semaine de compétition se sont déclarés impressionnés par l'accueil des Montréalais et du niveau de préparation de l'organisation. Les disciplines sportives étaient sanctionnées par les fédérations sportives québécoises et canadiennes. Si la foule ne s'est pas précipitée pour regarder les épreuves sportives, quelques 32 000 personnes assistent néanmoins au spectacle de clôture au Stade olympique, réunissant sur scène Lisa Minnelli, Marjo, Marie-Chantal Toupin, Mélanie Redeau et la DJ Tracy Young. Malheureusement, alors que l'organisation prévoyait un bilan financier équilibré, les Hot Games se retrouvent avec un déficit $1 million, sur un budget d'un peu plus de 15 millions. 2011, dévoilement du premier plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie. En mai 2011, le ministre de la Justice du Québec, Jean-Marc Fournier, rend public le premier plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie 2011-2016. Ce plan d'action fait suite au rapport de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, CDPDJ, paru en 2007. Le gouvernement du Québec s'engage à poser 60 actions en se basant sur les 4 orientations décrites dans sa politique québécoise de lutte contre l'homophobie. Ces actions incluent notamment la mise en place d'une chaire de recherche sur l'homophobie, la création d'un programme de subvention pour des projets luttant contre l'homophobie, la tenue d'une campagne médiatique de sensibilisation sur l'homophobie et la sensibilisation des associations patronales afin de leur rappeler l'importance d'assurer un environnement sécuritaire sans homophobie. Deux autres plans d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie suivent. Le plus récent plan d'action, 2023-2028, est appuyé par un investissement total de 19,7 millions sur 5 ans, auquel s'ajoutent 4 millions pour renforcer la capacité de coordination de l'action gouvernementale. Il mobilise 25 ministères et organismes gouvernementaux. Création en novembre 2011 de la chaire de recherche sur l'homophobie. En novembre 2011, la chaire de recherche sur l'homophobie, maintenant appelée la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres, est mise sur pied dans le cadre du plan d'action gouvernemental. Elle est la première chaire de recherche permanente sur l'homophobie en Amérique du Nord. Lynn Chamberlain, professeure au département de sexologie de l'UQAM, est nommée titulaire de la chaire à sa formation. À sa retraite en 2020, elle est remplacée par Martin Blais. En 2012, le monde entier est choqué par l'affaire Luca Rocco Magnotta. Luca Rocco Magnotta rêvait de devenir célèbre et il y est arrivé de funeste façon, en tuant et démembrant à Montréal Lin Jun, un étudiant chinois de l'Université Concordia qu'il avait croisé sur un site de rencontre. Magnotta, qui a dépecé sa victime et envoyé les pieds et les mains de Lin Jun dans deux écoles à Vancouver et à des politiciens à Ottawa, a été arrêté en juin dans un cybercafé à Berlin, en Allemagne, après une chasse à l'homme qui a duré plusieurs jours suite à la découverte d'un cadavre le 29 mai. Rapatrié au Canada et jugé pour ses crimes, il purge une sentence à perpétuité, donc sans possibilité de libération conditionnelle avant 2037. Vous écoutez « Quelques moments marquants pour nos communautés », un texte de l'équipe de rédaction paru le 29 mars 2024 dans le magazine Fugue. Le 7 avril 2014, élection de Manon Massé. Aux élections provinciales, la militante féministe et organisatrice communautaire Elle était, entre autres, en charge de la marche du pain et des roses, Manon Massé, est élue députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques sous la bannière de Québec solidaire. Ouvertement lesbienne, Manon Massé rejoint alors la députée péquiste Agnès Maltais, qui, elle aussi, a fait sa sortie du placard, mais plusieurs années après avoir été élue. Elle a été co-porte-parole de Québec solidaire de 2017 à 2023. À l'été 2017, Montréal vibre au rythme de Fierté Canada Pride. Dans le cadre des célébrations du 375e anniversaire de Montréal, la ville accueille, lors de la Fierté, la première édition nationale de Fierté Canada Pride pour ce qui a été l'un des plus importants festivals de la Fierté dans la métropole depuis les Hot Games mondiaux de 2006. Fierté Montréal, dans le cadre de cette édition spéciale, accueille à Montréal 96 organismes de tout le pays et plusieurs centaines de personnes participent à une conférence sur les droits LGBTQ+, alors que la ville et la nation célèbrent leur 375e et 150e anniversaire respectifs. Environ 2,7 millions de personnes ont pris part à l'une ou l'autre des activités de Fierté Canada cette année-là. Le 14 juin 2017, Gay Écoute devient Interligne. L'organisme Gay Écoute, fondé en 1980, change de nom pour devenir Interligne. Ce changement de nom est motivé par un effort d'inclure les différentes réalités de la diversité sexuelle et de genre. Le directeur général d'Interligne, M. Pascal Vaillancourt, expliquait en entrevue dans Fugue que le nom « Gay Écoute » pouvait sous-entendre que seulement les hommes homosexuels étaient concernés par la ligne d'écoute, ce qui risquait de décourager certains et certaines appelants appelantes d'avoir recours à leur service. En plus du changement de nom, Interligne veille à inclure des personnes trans et non-binaires dans leur équipe permanente, ainsi que chez leur porte-parole. Un MeToo gay. Dans la foulée du mouvement de femmes célèbres qui dénoncent leurs agresseurs, des personnalités gays ne sont pas épargnées. On pense à l'acteur américain Kevin Spacey. Au Québec, l'animateur Éric Salvaille se retrouve dans la tourmente en 2017 suite à la publication d'une enquête dans la presse. Il est accusé d'avoir eu des comportements coercitifs auprès de collaborateurs masculins de son entourage. Il sera finalement acquitté en décembre 2020. Cette année-là, c'est au tour d'André Boisclair, l'ancien chef du Parti québécois, d'être accusé cette fois par deux jeunes hommes, dont un l'accuse d'agression sexuelle armée. Il plaide coupable en juin 2022 et est condamné à 2 ans de prison. Sa demande de libération conditionnelle est refusée à la fin 2022. La commission des libérations conditionnelles explique dans sa décision qu'il a une attitude arrogante envers les agents correctionnels et considère que le risque de récidive que vous présentez est inacceptable actuellement et que le cheminement doit se poursuivre dans le contexte sécuritaire de l'incarcération. Des excuses pour la purge LGBTQ2 le 28 novembre 2017. Novembre 2017, le premier ministre Justin Trudeau présente des excuses officielles au nom du gouvernement canadien devant la Chambre des communes aux personnes ayant subi un préjudice à cause des lois, politiques et pratiques fédérales qui ont mené à l'oppression et à la discrimination envers les personnes bispirituelles, lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres au Canada. Le premier ministre présente des excuses particulièrement pour la manière injuste dont ont été traités les fonctionnaires fédéraux, LGBTQ2, notamment ceux des Forces armées canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada. Les excuses formulées par Justin Trudeau sont assorties d'un dédommagement financier et d'un projet de loi qui permettrait aux Canadiens punis jadis pour des relations homosexuelles consensuelles d'effacer toute trace de ces condamnations de façon simple et sans frais. L'été suivant, la Cour fédérale approuve une entente de règlement définitive accordant jusqu'à 110 millions de dollars d'indemnité. Le 1er décembre 2021, les thérapies de conversion sont interdites au Canada. Le projet de loi C6 est déposé fin octobre 2020 à la Chambre des communes et vise à interdire les thérapies de conversion, mais en raison du déclenchement des élections fédérales, le projet de loi est abandonné. Un projet de loi nommé C4 reprend l'idée globale du C6, mais en modifiant une variable importante en matière de consentement. Alors que C6 proposait d'interdire les thérapies de conversion uniquement pour les personnes n'ayant pas consenti à cette procédure, la C4 va plus loin et l'interdit même si une forme de consentement a été donnée au préalable. Le 1er décembre 2021, le projet de loi C4 est adopté à l'unanimité à la Chambre des communes. 4 décembre 2022, fin de la discrimination pour les dons de sang. Les mêmes critères d'admissibilité sont dorénavant appliqués à tous les donneurs de sang chez Emma Québec. Un homme homosexuel ayant eu une relation sexuelle avec un autre homme n'aura donc plus à s'abstenir durant 3 mois pour le faire. Toute personne ayant eu un seul partenaire sexuel durant les 3 derniers mois pourra ainsi se qualifier, a priori, pour un don de sang, peu importe son orientation sexuelle. Ceux ayant eu 2 partenaires ou plus pourront aussi se qualifier, à moins qu'ils aient eu des relations sexuelles anales avec l'une de ces personnes, peu importe leur orientation sexuelle. Le 18 mars 2024, nous ne serons pas sages. La coalition Nous ne serons pas sages, constituée de 118 organisations féministes, syndicales, étudiantes et communautaires, s'inquiète des répercussions qu'aura le Comité des sages créé en décembre 2023 par la ministre de la Famille Suzanne Roy dans un contexte où la haine envers les personnes trans et non-binaires croît rapidement. Ce Comité des sages est censé orienter le gouvernement de la CAQ sur les enjeux des personnes, donnant l'impression que les droits des personnes trans et non-binaires sont négociables ou non acquis. La coalition dénonce l'absence de représentativité et d'expertise du Comité des sages et exige sa dissolution. C'était « Quelques moments marquants pour nos communautés », un texte de l'équipe de rédaction paru le 29 mars 2024 dans le magazine Fugue.